Maseret Pesachim Daf Mem Vav, on commence Bezrat Hashem Daf Mem Mer Amud Bet à 4 lignes d'en bas. Vechen et Inyan Atuma, on a vu dans la Mishnah que de la pâte qui se trouve dans les fentes, qui se trouve dans les fentes de la bassine, si un kazaït, il faut brûler, sinon il faut pas brûler. On est rentré dans les détails. Si ça se trouve dans le fond de la bassine ou sur les côtés ou en haut. Donc on avait vu que si c'est au fond et ça s'annule à la bassine, il en a besoin. Si c'est sur les côtés, il en a moins besoin. Si c'est en haut, il n'en a pas besoin. Et donc en fonction de ça, on saura si il faut brûler ce chametz-là ou bien ça fait partie de la bassine elle-même. Ici, la Gemara nous dit que vechen einan touma, de même pour la touma, il m'acquitte à la chotzetz. Si il est gêné par la présence de cette pâte-là, c'est chatita. Donc ça gêne. Le mikveh, la purification de la bassine au mikveh. On considère qu'à l'endroit de la pâte, l'eau n'a pas touché la bassine elle-même, donc le mikveh n'est pas bon. Mais si par contre il veut que ça reste ici pour boucher le trou, il veut que la pâte elle reste à cet endroit-là, alors ça fait partie de la bassine elle-même, et au contraire, il n'y a pas de problème de la tremper comme ça. Demande à Gmar Amidami, est-ce qu'on peut comparer le cas de Pessah, le cas du Hametz de Pessah, au cas du mikveh de la bassine? En ce qui concerne Pessah, tout dépend de la quantité. Est-ce que c'est une quantité de chametz qu'il faut annuler, qu'il faut brûler ou pas? Tandis que Acha, ici, en ce qui concerne le mikveh, mikveh d'Atalia Milta, ça dépend de sa gêne. Est-ce qu'il est makpid? Est-ce qu'il a l'intention de l'enlever pour nettoyer la bassine de cette pâte-là? Ou non, au contraire, il est intéressé de la laisser? C'est pas une question de quantité, c'est une question d'intention. Amar Rav Yehuda, Emma Ulenian Atuma Enoken. Rav Yehuda, première réponse dit la Gemara. Rav Yehuda corrige et dit, en ce qui concerne Atuma, c'est différent de Pessah. Donc, au contraire, là-bas, à Pessah, ça dépend de la quantité. Atuma, ça dépend de l'intention. Amar Le Abaye, Abaye demande à Rav Yehuda, comment est-ce que tu peux corriger la Mishnah? Non seulement la corriger, au contraire, l'inverser. Ha, Vechen Einan Touma Ksen. Dans la Mishnah, c'est écrit de même pour la Touma. Ne me dis pas que pour la Touma, c'est différent. Au contraire, c'est écrit dans la Mishnah de même pour la Touma. Donc, il n'y a pas de différence entre Pessah et Touma. Donc, tout dépend de la quantité. Comment comprendre la Mishnah? Elam Arabaya Rikamar. Deuxième réponse. Dit Abaye. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre la Mishnah. Vechen, Leinyan, Tsiruf Touma, Bepessah. De même, en ce qui concerne un Tsiruf Touma, pour associer un morceau étranger pour compléter la quantité de Touma, en ce qui concerne Pessah. Pessah, ça sera comme. En ce qui concerne Pessah, on dira que le statut de cette pâte-là dans la bassine à propos de Touma est le même que à propos de Biur Hametz. La Gemara va s'expliquer au Vishar Imot Hashana, tandis que dans les autres jours de l'année, Ika Plukta, il y a une différence s'il est makpid ou il n'est pas makpid. La Gemara s'explique. La Gemara explique bien cette halakha. Et Ridami, de quoi il s'agit exactement? C'est quoi l'histoire? Kegondi Ika Pachot Mikabeta Ochalin. Il s'agit que il avait un aliment qui faisait moins d'un kabeta. Un aliment qui fait moins d'un kabeta, il ne peut pas rendre tamé. Venagou behai batek, behai batek. Cet aliment-là, il a touché cette pâte. Ensemble, ça forme un kabeta. Est-ce que j'associe la pâte qui est dans la bassine? C'est pas une pâte dans la bassine, c'est une pâte qui fait partie de la bassine. Est-ce que je la considère comme la bassine elle-même et donc je n'ai pas la quantité d'aliments qu'il faut pour rendre tamé, ou je considère cette pâte-là comme est-ce que je la considère donc comme une partie de la bassine ou je la considère comme un aliment? Si je la considère comme un aliment, je peux l'associer à l'aliment qui l'a touché pour former en tout un kabeta, pour rendre tamé autre chose. Donc Pessah d'Issur Chashuv, si ça s'est passé à Pessah, alors là-bas, ça dépend. Est-ce que la pâte en question, il fallait la brûler ou pas? Si ça avait un kazaït et qu'on a dit qu'il fallait brûler, alors ça lui donne de l'importance. Ça en fait une quantité d'aliments. Ça en fait un aliment. Ça le considère comme un aliment important. Et donc, mitzaref, on peut associer et on associe la pâte avec l'aliment qu'il a touché pour former en tout un kabeta qui va entamer. Pourquoi? Parce que je dis, même si la personne en question, il est pas makpid, ça ne dépend pas de son intention. Même s'il lui dit, moi, ça me gêne pas, je laisse la pâte dans ma bassine, on lui dira, non, tu ne peux pas la laisser, tu as le devoir, tu as l'obligation de brûler cette pâte-là, ce chametz, parce qu'on est en plein Pessah. Et puisque tu as l'obligation de brûler ce chametz, ça lui donne de la considération, et donc, tu dois le considérer comme un aliment qui s'associe avec l'aliment qu'il a touché pour former un kavetsa, pour entamer ce que ça va toucher. Ça, c'est un Pessah. Bishar yamot hashana de bikpeda talamilta, tandis que les autres jours de l'année où tout ne dépend que de son intention, de sa kpeda, est-ce qu'il est gêné par ça ou pas? Il makpid alav mitzaref. S'il est makpid, il veut enlever ce morceau de pâte de la bassine, alors c'est qu'il le considère comme un aliment, et donc ça s'associe avec l'aliment qu'il a touché pour former Antoine Kavetsa, pour entamer ce que l'autre aliment qui sera touché par eux deux. Imrotebe kiumo, mais si par contre il veut que ce morceau de pâte reste dans la bassine pour la boucher, pour boucher le trou, areu kareva, ça fait partie de la bassine elle-même. Puisque ça fait partie de la bassine elle-même, ça n'a plus de statut d'aliment, ça ne peut pas s'associer avec l'aliment qu'il a touché, donc on n'a plus un kavetsa, ça ne rend plus tamé ce que ça va toucher. Donc, ça, c'est ce que la Mishnah voulait dire par Vechen Inyan Touma. Qu'est-ce que ça veut dire Vechen Inyan Touma? Donc, maintenant, on peut comprendre la Gemara au début. La phrase qu'on avait vue au début de la page, on ne l'avait pas comprise au début. Maintenant, après l'explication de la Gemara, on peut mieux la comprendre. La Gemara disait, au tout début du Daf, Vechen Inyan Tsirouf Touma de Pessah. De même, comme à propos de Biou Hamed, on a dit, ça dépend du Kazaït, de la même manière, on dira à propos de Tsirouf Touma, d'associer les aliments pour en faire un kabetsa, pour entamer. Donc, Bepessar, on dira que, si ça s'est passé à Pessar, on dira que c'est la même chose, c'est la même quantité, donc un kazaït. C'est-à-dire, si ça s'est passé à Pessar, donc on dira que s'il y a un kazaït de pâte dans la bassine, alors c'est considéré comme un aliment. Et donc, ça peut s'associer. Ou Vishari Motashana, Ika Plugta. Tandis que les autres jours de l'année, il y aura la différence entre le cas où il est makpid et le cas où il n'est pas makpid. Donc ça, c'était la première ligne de la page, telle qu'on l'a comprise maintenant après l'explication de la Gemara. On reprend là où on en était. Matrifla Rava. Rava objecte. Rava n'accepte pas cette explication dans la Mishnah. Miktan et Mitztaref. Comment est-ce qu'on peut comprendre dans la Mishnah? Ça s'associe la pâte de la bassine avec l'aliment qu'il a touché. Est-ce que dans la Mishnah, il est écrit Mitztaref, ça s'associe. Ve'achotet k'tane, la Mishnah parle de Khatitsa. Khatitsa, c'est un morceau étranger qui est rentré dans la bassine. Est-ce que je considère comme la bassine elle-même ou non comme une Khatitsa pour la bassine? C'est étranger à la bassine, donc c'est Khotet. Ça fait que l'eau qui a touché la bassine n'a pas touché cet endroit-là. Donc la Mishnah, elle a parlé de Khotet, elle n'a pas parlé de Mitztaref. Donc tu ne peux pas comprendre la Mishnah comme ce qu'on vient d'expliquer. Et là, Rava propose une troisième explication donc dans la Mishnah. Vechen leha'alot tahara leha'areva. Rava dit que on parle du mikvé, on parle lui comme on a compris. Quelqu'un qui veut tremper cette bassine-là pour la purifier, eh bien, à Pessah, ça dépendra de kazaït ou pas kazaït. Si un kazaït, puisque je dois le brûler, un kazaït de pâte dans la bassine, puisque je dois le sortir et le brûler, donc ça fait khatitsa. Si à moi d'un kazaït, puisque je peux laisser, je peux considérer que ça fait partie donc de la bassine elle-même, et il n'y a pas de problème de khatitsa. Echidamil, c'est ce que la Gemara explique. De quoi il s'agit? Kegan de itmehach areva. Il s'agit d'un cas où la bassine est devenue tamée, ou bailat boule. Il veut la tremper. Mais pesach d'issour au khashuv, un pesach où il y a de l'importance pour son issour, il y a ici un kazaït, ça a de l'importance, il faut le brûler. Chotet, velos al kalat vila. Donc ça fait khatitsa et le mikvé n'est pas bon. La purification n'est pas bonne. Bishar yemot hashana, tandis que les autres jours de l'année, ça ne dépend pas d'un kazaïd. Bikpe datalia milta, ça dépend de son attention. Est-ce qu'il est makpid, il est gêné par la présence de cette pâte-là dans la bassine, oui ou non? Et makpid alav chotet, il est gêné, ça fait khatitsa. C'est un corps étranger dans la bassine, c'est quelque chose qui gêne dans la bassine. Et donc, il faudrait l'enlever pour que l'eau touche à cet endroit-là, la bassine. Ve'im rotebe kiumo, mais si par contre, au contraire, il est intéressé que ça reste comme ça, areu kareva, ça s'annule à la bassine, ça fait partie de la bassine elle-même, et donc il peut la tremper comme ça, a priori, il n'y a pas de problème. Matkifla Rafapa. Rafapa refuse cette explication aussi dans la Mishnah. Miktan et Vechen Inyan Tahara. Est-ce que dans la Mishnah, c'est écrit Vechen Inyan Tahara, de même pour la purification? Ha, l'Inyan Tuma Ktane. La Mishnah, elle parle de Tuma. Donc la Mishnah nous dit une phrase comme ça. La Mishnah nous avait dit Vechen l'inyan Touma, il m'akpid alav chotetz. Il faut comprendre toutes ces notions-là de la phrase. Il faut comprendre d'abord qu'il s'agit de Touma et pas de Tahara, donc c'est pas qu'il la trempe au mikvé. Il faut comprendre aussi que ça dépend de son intention, comme elle a dit Makpid. Ça ne dépend pas du Kazaït, ça dépend de Makpid. Il faut comprendre aussi la phrase, la notion de Chotetz. De Chotetz. Donc, c'est-à-dire que c'est une question ici de Khatita, pas de Tirouf, pas d'autre chose. Donc, comment comprendre cette phrase-là? Et c'est comme ça que la Gemara arrive à sa quatrième explication. Elamara papa. Vechen leinyan. Leorid Touma leareva. Il s'agit ici de rendre tamé la bassine. Echidami, de quoi il s'agit? Kegonenagasheret baibatek. Il y a un reptile mort qui a touché la pâte. La pâte qui était dans la bassine. La pâte qui était dans les fentes de la bassine, dans les trous de la bassine. Mais Pesach tisuro chashuv, quand ça se passe à Pesach? Je dis que cette pâte-là, puisqu'il faut la retirer pour la brûler, dans le cas où il y a une quantité importante de pâte, comme on a dit, un kazaït, il faut l'enlever pour le brûler, alors ça lui donne de l'importance, et donc ça fait que ça ne s'annule pas la bassine. C'est considéré comme autre chose que la bassine, chotetz. Donc il y a ici une khatita, une séparation entre le reptile et la bassine. Cette pâte-là, elle est séparée, elle est distinguée de la bassine. Velo nachta la touma, et donc la touma ne rentre pas dans la bassine. Bishari Motashana, par contre, les autres jours de l'année, des Bikpeda Talia, où tout dépend de son intention, de sa Kpeda, de sa gêne, il m'akpide à la brochette. S'il est gêné par la présence de cette pâte-là, dans la bassine, dans les trous de la bassine, alors, c'est considéré effectivement comme autre chose que la bassine. La Touma ne passe pas automatiquement de la pâte à la bassine. La pâte est devenue tamée, la bassine non. Tandis que si, au contraire, il veut que cette pâte-là reste ici pour boucher le trou de la bassine, alors je la considère comme une partie de la bassine, et donc puisque la Touma a touché la pâte, c'est comme si elle avait touché la bassine, tout devient tamé. Et avec ça, enfin, on a compris toute la phrase. On a compris que il s'agit ici de Touma, il ne s'agit pas de Tahara, il s'agit aussi des autres jours de l'année. Ça dépend de sa kpeda, s'il est gêné par ça ou pas. Tandis qu'à Pessah, on aurait dit vechen. En fait, on a une contradiction dans la Mishnah elle-même, c'est là où commence le problème de la Gemara. Le problème avait commencé par une contradiction dans la phrase. La phrase de la Mishnah avait dit au début vechen l'inyan touma, de même pour la touma. Qu'est-ce que ça veut dire de même? Que de la même manière que, en ce qui concerne biou chametz, je dis que ça dépend d'un kazaït ou pas d'un kazaït, de la même manière pour la touma, je dirais que ça dépend de la quantité d'un kazaït. Et juste après, tu me dis, dans la Mishnah, on avait vu, imakpid chotet, vimrote bekiumo, ça dépend de son intention, s'il veut l'enlever ou si, au contraire, il veut le laisser. Donc, ça ne dépend pas d'un kazaït. Et ça, la Gemara avait résolu ce problème immédiatement en disant que, effectivement, il s'agit de Pessah vis-à-vis des autres jours de l'année. À Pessah, je dis vechen. Je dis que de même que pour Biur Hametz, ça dépend d'un kazaït, de la même manière pour la Touma, ça dépend d'un kazaït. Les autres jours de l'année, je dis que ça dépend de sa kpeda, s'il est gêné ou pas. Et tout, selon la dernière explication, parle d'une question de Touma. Quand la Touma a touché la pâte, est-ce que la bassine est devenue tamée ou pas? C'est là où je dirais que, à Pessah, ça dépend d'un kazaït. Si un kazaït, la bassine n'est pas tméa, parce que la pâte est distinguée de la bassine, puisqu'il faut la retirer pour la brûler. Tandis que le reste de l'année, ça ne dépend pas de la kazaït, ça dépend de sa kpeda. S'il a l'intention de l'enlever, alors effectivement, c'est autre chose que la bassine reste théora. Si par contre, il a l'intention de la laisser, ça fait partie de la bassine, et la touma en touchant la pâte, elle a rendu tamée même la bassine. Mishnah suivante. Batek acheresh, de la pâte, acheresh, sourd, comme un sourd. Rashi explique que le sourd, il a des oreilles. Un homme qui est sourd, il n'entend pas. Il a des oreilles, on ne voit pas qu'il a un problème. On voit pas qu'il a un problème, mais il en a un. Ici, la pâte, elle est aussi, elle a ce même problème-là. C'est que on ne peut pas reconnaître si c'est devenu chametz ou pas. On voit que ça a commencé un processus de devenir chametz. La couleur a déjà un peu changé de la pâte. Et donc, ça s'approche à être chametz, mais on ne voit pas encore d'autres simanimes que c'est devenu chametz. Il n'y a pas les fentes, il n'y a pas les problèmes. Donc, on ne sait pas si c'est devenu chametz ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? S'il y a une autre pâte qui a été faite en même temps que celle-là, on a pétri les deux pâtes en même temps, et la deuxième pâte, on voit qu'elle est déjà devenue chametz, arézé assour. La première aussi, même si elle n'a pas les simanim de chametz, on craint qu'elle est chametz, et donc elle est interdite. Demande à Gmara imen sham kel tsevo maou. S'il n'y a pas d'autre pâte, comment je sais si la première est devenue chametz ou pas? Amarabi avaou amarabi shom malakish. Kedesh yelech adam imigdal nunya litveria. Mil. Si la pâte est restée comme ça, un temps suffisant, de quoi marcher depuis la tour de Nounia jusqu'à la ville de Tveria, qui a une distance d'un mille. Un mille, c'est à peu près un kilomètre. Et c'est là d'où vient les 18 minutes en question, 18 ou un peu plus, selon les avis. Et donc, s'il y a un temps de 18 minutes qui est passé sur cette pâte-là sans qu'elle soit travaillée, eh bien, on craint qu'elle est devenue chametz. Demande à Gemara Venei Mamil. Pourquoi tu me dis Migdal Nounia Tveria? Dis-moi directement. Si le temps de marcher un mille est resté sur cette pâte-là, sans qu'elle soit travaillée, on craint qu'elle est chametz. Dis-moi directement le mille. Pourquoi me donner les exemples, le distance? Répond la Gemara à Akamash Malan. On est venu nous apprendre justement des Shiura des mille. Quelle est la mesure d'un mille qui est mis Migdal Nounia Tveria? Migdal Nounia Tveria sont deux endroits qui étaient connus. Et les gens, ils savaient très bien mesurer depuis une Migdal Nounia jusqu'à Tveria. Et c'était justement la référence pour savoir combien fait un mille. Donc, si tu veux savoir combien fait un mille, tu marches depuis Migdal Nounia jusqu'à Tveria, tu reconnais le mille. Tu trouves le mille. Et c'est ce temps-là, justement, qui a été donné comme référence pour le Chametz. Les Gabal, c'est quelqu'un qui pétrit la pâte d'un autre. Et donc, il a reçu une pâte à pétrir et ses récipients sont tamés. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Le mikvé, pour les purifier, il doit marcher loin. Est-ce qu'il doit, jusqu'où il doit se fatiguer à marcher pour amener ses récipients pour les purifier? Alors, ici, on va dire que c'est jusqu'à 4000. 4000, c'est à peu près 4 kilomètres. Veletfila de même, quelqu'un qui trouve un endroit, et il est en chemin, et voilà que arrive la nuit, il veut aller dormir, mais il n'a pas encore fait Arvit. Et donc, il doit chercher ici un minyan, il n'y en a pas. Il doit s'éloigner jusqu'à 4000, il doit avancer sur son chemin encore jusqu'à 4000, 4 kilomètres, pour faire cette fila Betzibour. Velintilat Yadaim. De même, quelqu'un qui doit manger du pain, il n'a pas ici d'eau, il doit marcher, il est en chemin, il doit avancer encore 4000 et se retenir de manger pour obtenir de l'eau. Ici, il sait qu'il y en aura dans 4000, et bien jusqu'à 4000, il doit encore faire la marche pour faire Netilat Yadaim. Donc, Arba, Milin, on lui dira 4000. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit deux remarques. Premièrement, ce que tu as dit, c'est à la Halah au nom de Rabbi Avahu, comme on a dit, Rabbi Avahu au nom de Rech Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish. C'est faux, c'est pas Rabbi Avahu, c'est Aïbou Amara. C'est Aïbou qui l'a dit. Aïbou, je pense, c'était le père de Rav. On a vu au début de Maseret que Rabbi Chia, en rencontrant Rav, il a demandé est-ce que Aïbou Kayam. Aïbou, c'était le père de Rav, qui était le frère de Rabbi Chia. Donc, cette halakha là a été dite par Aïbou et pas par Rabbi Avahu. On a vu ça au Daf Dalet Amudalef tout en haut. Donc ici, on reprend Aïbou Amara. D'abord, celui qui a dit cette halakha, c'est Aïbou. Deuxièmement, Ve'arba'a Amarba. Il a dit quatre halakhot. Ici, on a cité trois choses. On a dit celui qui pétrit la pâte, celui qui doit faire la tfila, celui qui doit faire l'intila. Et il y en avait une quatrième encore qui dépend de ces 4000-là. Une quatrième halakha sur laquelle on a dit cette mesure-là de 4000. Ve'chadaminayu Iboud. Et la quatrième chose, c'est travailler les peaux. D'etnan, ça s'apporte sur une Mishnah qui dit, Vechulan she'ibdan, les peaux qui sont considérées comme la viande de l'animal ont un statut d'aliment qui prend la touma, etc., du cadavre et tout. Maintenant, s'il a travaillé les peaux, on ne dira pas que ma ceinture c'est un aliment qui a de la touma d'un cadavre. On dira que il s'agit en fait de peaux molles, pas de n'importe quelle peau. Mais en tout cas, certaines peaux qui ont déjà été travaillées n'ont plus leur statut de viande, de chair, pour dire que ça prend de la touma. Ou bien, s'il n'a pas travaillé la peau avec les produits habituels, mais il a piétiné, il a marché sur la peau jusqu'à ce qu'elle a durci, c'est aussi une manière de travailler la peau. Et donc, si il a marché dessus, un temps de quoi travailler la peau, théorine, c'est pur. C'est pur, ça veut dire ça n'a plus de statut de cadavre, de chair, ça devient déjà du cuir. Chutz mi'or ha'adam, sauf la peau d'un homme, que même si elle était travaillée, elle garde son statut de touma. Donc quelqu'un qui prend la peau d'un homme mort, il commence à la travailler, il n'a pas sorti le statut de touma qu'il y a sur cette peau-là. Vekamakedavoda, combien a le temps de travailler les peaux? Amar Rabbi Aibu, Amar Rabbi Anai, Kedehilur Arba Milin. De quoi marcher 4000? Ça, c'est le temps de piétiner la peau pour dire qu'elle a été travaillée suffisamment pour lui extraire son statut de chair de touma. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Loshanel Alefanav, qu'on a dit qu'il doit s'efforcer, qu'il doit se fatiguer à avancer encore 4000, c'est que quand c'est devant lui. Donc de toute façon, il devait avancer, il devait prendre son chemin. Et devant lui, à 4000, il y aura un minyan, il y aura de l'eau de Netilat Yadayim, etc. C'est là on lui dit, fatigue-toi et arrive jusque là-bas. Aval le'acharav, mais si c'est pour revenir en arrière, afilu mil enochoser. Même un mille, un kilomètre, on ne dira pas de faire marche arrière pour retrouver son minyan, pour retrouver son eau, etc. Amar avacha omina, de là on apprend que mille houd enochoser, à part contre mille choser, un mille, il n'a pas de devoir de revenir en arrière. Moins qu'un mille, il a eu le devoir de se fatiguer et retrouver son minyan là. Donc un homme a le devoir de se fatiguer jusqu'à un mille pour faire cette fila de minyan. Et s'il est en chemin et que devant lui à 4000 il y aura un minyan, il a le devoir d'avancer encore 4000 de plus pour faire cette fila de minyan et pas s'arrêter là où il est pour passer la nuit. Donc il doit continuer son chemin jusqu'à ce qu'il retrouve son minyan pour pouvoir faire la fila de Tibour. Mishnah suivante. Ketzad mafrishin chala betouma beyom tov. La Mishnah ici, elle nous pose un grand dilemme. Quelqu'un qui est en train de pétrir de la pâte pendant Yom Tov. Il veut cuire sa pâte, sa matza, pendant Yom Tov. Donc un homme cuit sa matza pendant Yom Tov. Il a un problème qui est la frachat chala. La frachat chala, il doit prélever de la chala de cette pâte-là pour la donner au Kohen. Quand est-ce qu'il fait ce prélèvement? Avant la cuisson ou après la cuisson? Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, il peut le faire avant, il devrait le faire avant la cuisson. Il fait le prélèvement de chala, il cuit la matza, la chala en question, et il la donne au Kohen, magnifique, tout va bien. Le problème ici, il est que la chala, elle est tmea. Elle est tmea, donc le Kohen ne pourra pas la manger. Ce qu'il pourra faire, c'est la brûler, il n'y a rien à faire avec. Donc le Kohen, ou même le Israël, il fait son prélèvement, sa frachat chala, et il la brûle. Le problème, il est que quand est-ce qu'il fait ce prélèvement-là? Avant de cuire la matza ou après? S'il cuit d'abord, et ensuite il fait la frachat chala, il se trouve qu'il aura cuit maintenant pendant Yom Tov, il se trouve qu'il aura cuit pendant Yom Tov un pain qui ne sera pas consommé pendant Yom Tov, une matza qui ne sera pas mangée pendant Yom Tov. Si il fait le prélèvement avant de cuire, qu'est-ce qu'il va faire avec cette afrachat chala? Qu'est-ce qu'il va faire avec ce morceau de pâte? Le cuire ensuite est interdit, comme on a dit, parce que de toute façon, il ne peut rien en faire. Ne pas le cuire, ça va devenir chametz. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Donc, Ketan Afrishin Chala Betouma Biyom Tov demande à Mishnah. Comment on fait le prélèvement de la frachat chala alors que la chala est tmea, la pâte elle est tmea en général, pendant Yom Tov, comment je fais? Rabbi Eliezer Omer, Lotikra Lachem, HTAFE. Rabbi Eliezer dit, il n'y a pas de problème, il ne fait pas le prélèvement, il ne nomme pas la chala tant qu'il ne l'a pas cuit. D'abord, il cuit toute la pâte, et puisque chaque matza qu'il est en train de cuire, il peut dire ce sera pas salachala. Donc il peut tout cuire. Une fois que tout sera cuit, il dit voilà, arezu chala. Celle-ci est la chala. Et il ne la mange pas, il ne la touche pas, c'est plus chametz parce que ça a déjà été cuit. Bel metera omer tatil betsonen. Deuxième avis, bel metera il dit, elle fait le prélèvement, on fait la frachat chala avant de cuire, et on met dans de l'eau froide. Si on met dans de l'eau froide, ou au congélateur, disons, ça ne va pas devenir chametz. Il peut laisser comme ça, il n'a pas le droit de cuire parce que c'est interdit de cuire pendant Yom Tov quelque chose qui ne sera pas mangé pour Yom Tov. Or ici, le Kohen ne peut pas manger cette matza pendant Yom Tov, cette frachat chala parce que c'est amé. Donc, il ne pourra pas la cuire, il fait la frachat chala et il la met de côté, il la met au froid pour pas que ça devienne chametz. Amar Rabbi Yoshua, on tourne la page. L'ozeu chametz et mouzarin elle avait balire ou balimate. Rabbi Yoshua dit, c'est quoi le problème? Pourquoi tu es en stress? C'est quoi le problème ici? Il n'a qu'à faire sa frachat chala. Depuis qu'il a nommé chala, ça ne le concerne plus. Ça y est, ça ne lui appartient plus. Ce n'est plus un chametz sur lequel il est ordonné de faire attention de balire et balimate. Il n'a pas le devoir de le détruire, de le brûler, de le sortir. C'est plus à lui, c'est au Kohen. Or, il n'a pas donné à aucun Kohen. Donc, il peut laisser comme ça. Et la mafrichata, la femme, donc, elle fait cette afrachat chala de cette matzala. Et avant de cuire, ou manichata, adhérev, elle la laisse comme ça jusqu'au soir. Mais mechmita, chmita, si ça devient chamet, ça devient chamet. Quel problème? Il aura du chamet à la maison, ça ne lui appartient pas, ça ne le regarde pas. La Gemara propose une explication dans la Mishnah. Quelle est la machloket ici? Lema betuvat ana kamiflege. Ici, on voit qu'au fond de la Mishnah, il y avait une question de base à savoir, est-ce que je suis responsable de la frachat chala, oui ou non? Est-ce que ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas? Si ça m'appartient, j'ai pas le droit de laisser chametz. Si ça n'appartient pas, je peux laisser chametz. La Gemara propose de dire qu'ici, la question, le fond de la question, il est à savoir, tuvatana'a. Tuvatana'a, c'est-à-dire, cette chala à qui elle appartient? Au Kohen. Elle appartient pas au propriétaire. Mais lui, par contre, il a le droit de choisir qui est le Kohen qui va profiter de cette chala. Donc, un homme a ce droit-là qui vaut peut-être de l'argent. Ce choix, il vaut peut-être de l'argent. Vient son ami et lui dit, je t'achète tes troumots, je t'achète ta chal, ta frachot chala. Je les donne à mon petit-fils, le Kohen. J'ai un petit-fils Kohen à qui je veux offrir des troumots, de la frachot chala, etc. Donc, tiens, prends une petite pièce. Ça ne te vaut pas grand-chose, ce choix-là. Ça te vaut quand même un petit peu. Et donne-moi. Et donc ça s'appelle quelque part, est-ce que ça s'appelle quelque part qu'il est propriétaire sur ça ou pas? Est-ce que cette tuvatana, donc cette tuvatana, ça veut dire ce choix-là qu'il a, ce droit qu'il a de choisir à qui le donner, est-ce que c'est considéré comme une valeur d'argent ou pas? Donc l'ema dit la gemara, mais tuvatana kamiflagé. Ils sont justement marqués dans la Mishnah, savoir est-ce qu'on considère ça comme une valeur d'argent ou pas. Rabbi Eliezer Savar, tovatana mamon. Selon Rabbi Eliezer, c'est considéré comme de l'argent, ça a une valeur. Et puisque ça a une valeur, alors il n'aura pas le droit de le laisser la frachat chala devenir chametz. Ve Rabbi Yoshua Savar, Rabbi Yoshua qui a dit à la fin de la Mishnah, quel est le problème que ça devienne chametz, que ça ne le regarde pas? Lui, il pense, tovatana et namamon. Ça ne s'appelle pas de l'argent, ça n'a pas de valeur qui lui appartient. Lui, le Israël, il fait sa pâte, il met de côté la frachat chala. Le reste ne l'intéresse plus, ne le regarde plus, et ça peut devenir chametz, c'est pas grave. Alors, la Gemara repousse en disant, non, c'est pas ça la marloquette de la Mishnah. De coup, l'alma savre, tovatana et namamon, tout le monde est bien d'accord qu'on ne considère pas ce choix-là, ce profit-là, de donner à qui il veut, on ne considère pas ça comme une valeur d'argent. Ve'achab behoil kamiflage. Ici, il y a quand même lieu de le rendre responsable de cette afrachat chala, si elle devient chametz ou pas, pour une autre svara. Pas à cause de la tuvatana'a, mais à cause d'un ho'il, d'un puisque. C'est quoi le ho'il ici? De Rabbi Eliezer Savar Amrinan ho'il. Rabbi Eliezer dit, on dit ho'il. C'est quoi le ho'il? Ho'il, ça veut dire puisque, les ibaï ichilale, ala, s'il voulait, il aurait pu aller chez un chacham pour annuler son vœu de la frachat chala. Donc, mamoneu, c'est considéré comme son bien à lui. C'est-à-dire que de même qu'un homme a le droit de faire atarat nedarim et d'annuler n'importe qu'elle veut, il a le droit aussi d'annuler ses prélèvements. Un homme qui a dit « je nomme ça Trouma, je dis que ça sera Chala », je réserve ça pour la chala, la frachat chala. S'il regrette, il peut annuler ses paroles en allant chez le chacham, en faisant tarat nedarim, il lui dira moutar lach, et donc ça sera annulé, rétroactivement. Si il faisait ça, alors cette pâte-là qui est devenue chamet entre-temps, il s'avère qu'elle lui appartient. Non seulement qu'elle lui appartient, mais qu'elle lui appartenait. Il en est donc responsable complètement. Mais aujourd'hui, il n'a pas fait cette tarat nedarim, il n'a pas intérêt à la faire. Mais peut-être que je dis, puisqu'il aurait pu la faire, alors il en est quand même considéré comme propriétaire, comme responsable. Il a une responsabilité vis-à-vis de cette afrachat chala. Rabbi Eliezer, ça va, je reprends. Amrinan, on tient un ho'il, on dit oui le ho'il, puisque. Donc on dit, puisque ve'ibay ichil ale mamoneu, puisque s'il avait été fait, et s'il était allé faire atarat nedarim, ichil, il aurait été nish'al, il serait allé demander une atarat nedarim au chacham, et il lui aurait annulé donc sa afrachat chala. Mamoneu, donc c'est son bien, c'est son argent, ça lui appartient, donc il est responsable que ça ne devienne pas chamet. Rabbi Yosha Savar, le Amrinan ho'il. Rabbi Yosha dit, on ne dit pas ho'il, on ne dit pas ça. Aujourd'hui, c'est au Kohen, il a fait sa parachat chala. Donc, le Israël n'en est plus responsable, le Kohen ne l'a jamais reçu. Donc, ça a qu'à devenir Hamed, ça n'intéresse personne, personne n'en est gêné. Itmar. La Gemara, en rapport avec cette discussion-là, à savoir est-ce qu'on dit Ho'il ou on ne dit pas Ho'il, elle ramène une halakha qui ressemble à celle-là. Ha'ofem Yom Tov Lechol. Quelqu'un qui cuit du pain pendant Yom Tov, pour le lendemain, pour un jour de Chol. Ce qui est interdit. On peut cuire pendant Yom Tov pour Yom Tov, pas pour Chol. Rav Chisda Amar Loke, Rav Amar Eno Loke. Selon Rav Chisda, il est frappé. Il est loqué. Il est chayav malkout parce qu'il a fait une melacha interdite pendant Yom Tov. Il a cuit pour le lendemain. Rav dit non, il n'est pas chayav malkout. Rav Chisda Amar Loke. Selon Rav Chisda qui dit qu'il est chayav, pourquoi? Lo Amrinan, Rav Chisda ne tient pas Ho'il. On ne dit pas Ho'il. Quel serait ici le ho'il? On ne dit pas que ho'il ou mikle'ele orim chazile. Puisque si venaient maintenant des invités, il aurait pu leur servir ce pain. C'est-à-dire comme ça. Rav Chisda dit, un homme qui cuit maintenant vers la fin de Yom Tov du pain, il pourrait se justifier en disant, non, c'est pas une melacha interdite, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va toquer à la porte, qui va me dire, donne-moi une chala, donne-moi un pain, j'ai pas mangé mon repas d'Yom Tov, ou j'ai faim, et donc ça sera pour Yom Tov. Et puisque ça pourrait arriver, donc cette cuisson-là n'est pas une cuisson de chol pendant Yom Tov, donc je devrais être patour, Rav Chisda ne tient pas de ce ho'il. Rabba Amar Noloke. Rabba il dit, non, il n'est pas chayav malkout, pourquoi? Amrinan ho'il. On tient ho'il, puisque s'il y a des invités qui arrivent maintenant, qui ont besoin de ce pain, ça s'appelle que ça a été fait pour Yom Tov, alors même si les invités ne sont pas arrivés, cette cuisson-là n'est pas une cuisson évidente, qui n'est pas une cuisson de Yom Tov, elle pourrait être une cuisson de Yom Tov, donc il n'y a pas de malkout dessus. Donc voilà une marloquette, est-ce qu'on tient au il ou on ne tient pas au il? Amal et Rabba et Rav Chisda. Rabba a demandé à Rav Chisda, « L'édidar d'Amrat l'Amrinan au il. » D'après toi, Rav Chisda qui ne tient pas de au il. Comment tu comprends, comment on fait une chose pareille, de cuire de Yom Tov à Shabbat? Voilà, tout le monde cuit de Yom Tov à Shabbat. Tout le monde fait leur chalot de Shabbat en plein Yom Tov qui tombe vendredi. Comment on se permet de faire une chose pareille? C'est bien parce qu'on dit ho'il. C'est-à-dire, la cuisson de Yom Tov à Shabbat, la Gemara comprend qu'elle est interdite. Minatora même. Et la raison pour laquelle on se permet de le faire, c'est que parce qu'on tient ho'il. On dit, maintenant, il y a peut-être des invités qui vont arriver comme ça en dernière minute. Donc, cette cuisson-là pourrait servir pour Yom Tov même. C'est permis même pour Shabbat. Donc, tu vois bien qu'on tient de ho'il. Comment tu permets sinon? Amar le Mishum et Rouvet Avshilin. Il a répondu, non, c'est parce qu'on a fait Rouvet Avshilin. Quand on a fait Rouvet Avshilin, et qu'on a commencé à cuire déjà avant Yom Tov des repas de Shabbat, on a mis de côté un pain, un œuf, on a commencé à faire les cuissons de Shabbat déjà avant Yom Tov, on peut continuer pendant Yom Tov. Demande à Gemara Mishum et Rouvet Avshilin, Sharin Aniso de Raita. Est-ce que, en s'appuyant sur un Rouvet Avshilin, on se permet de faire un Issour de la Torah, de cuire des Yom Tov à Shabbat? Et alors, si on a fait Rouvet Avshilin, si tu ne tiens pas le ho'il, qui te permet de cuire du Yom Tov à Shabbat? Amarle, il a répondu. Midoraita, Toche Shabbat Nassim Yom Tov. En fait, Minatora, il est permis de cuire. Les besoins de Shabbat se font pendant Yom Tov. On peut cuire du Yom Tov à Shabbat. Minatora, il n'y a pas de problème, même sans Rouvet Avshilin. Ni ho'il. c'est une cuisson qui est permise minatora. Les rabbanan de Gazroubé, simplement les chachamim ont décrété, ils ont interdit cette cuisson de Yom Tov à Shabbat. Gzera shemayomru, ofin mi Yom Tov à Flechol. De peur que les gens disent, il est permis de cuire de Yom Tov à Chol. Et donc, ils ont interdit cette cuisson-là. Et ce qui va permettre de, lui, le faire, c'est le Rouv Tavshilin. Mais qui va être quoi, rabbanan et Rouv Tavshilin? Une fois que les chachamim ont exigé un Rouv Tavshilin, Itle Ekera, ça fait un siman, ça vient marquer, ça fait un rappel comme quoi il est interdit de cuire de Yom Tov à Chol. Le rappel, il est que tu vois que quand je dois cuire de Yom Tov à Shabbat, j'ai besoin d'un Rouv Tavshilin. C'est que grâce au Rouv Tavshilin que je me permets de cuire de Yom Tov à Shabbat. Et donc, il n'y a plus de problème ici, c'est permis de cuire de Yom Tov à Shabbat, même sans arriver à un Ohil. Et y va, autre objection. Bema Mesukenet. Une vache qui est en train de, qui est en danger, qui risque de mourir. Une vache malade, un mouton malade, pendant Yom Tov, lo yishrot. Il n'a pas le droit de lui faire la shrita pour le sauver. Pour le sauver, qu'il ne devienne pas nevela. Il a peur qu'il meure de lui-même. Donc, il lui fait rapidement la shrita de manière à ce qu'il puisse le manger ensuite. Et donc, ça, c'est interdit de faire pendant Yom Tov. Et la kedesh, yachol echol emena. Sauf si il a encore le temps de manger de cette vache-là, kezait tsali ibodium, un kazait de viande grillée, encore en jour de Yom Tov. Donc ici, il n'aura pas besoin de saler la viande, puisque quand on la grille, c'est bon aussi. Et ça se fait rapidement un kazait. S'il a les quelques minutes qu'il faut pour prendre un kazait, le griller, le manger, ça s'appelle que la shrita a été faite pour Yom Tov. S'il ne lui reste plus le temps de quoi griller et manger un kazaït, ça s'appelle que la shrita a été faite pendant Yom Tov pour Chol, c'est interdit. Donc, s'il peut manger un kazaït grillé, mibodium pendant Yom Tov, Yachol, il peut faire la shrita. La Gemara déduit de là, Yachol et Chol, il suffit qu'il puisse en manger, afal gav de lo baile meichal, même s'il ne veut pas en manger. Bish la maladie d'Amri O'il, ça va bien selon moi, Rabat, qui tient le O'il. Alors, ici aussi, on pourra s'appuyer sur un O'il. O'il, veibay le meichal matiach, puisque s'il veut en manger, il aurait pu en manger, il y a le temps de quoi en manger encore. Mishumachi Ishrot, c'est suffisant pour lui permettre de faire la shrita. Parce que c'est pas une melacha qui se reconnaît comme une melacha de chol, puisqu'il est possible de s'en servir pour Yom Tov même. Donc, il y a ici un O'il qui me permet de faire cette shrita. Et là, les didar, mais d'après toi, Rav Chisda, de Amrat l'Amrinan O'il, qui dit qu'on ne dit pas ce O'il, à Maïshrot, pour quelle raison il peut faire la shrita? Il faudrait qu'il en mange, pas qu'il puisse en manger. À Marle, Rav Chisda répond, Mishum Efted Mamono. C'est une question ici de perte d'argent, et donc il n'y a pas le choix, on va lui permettre de faire la shrita de manière à ne pas perdre toute sa vache. Demande la Gemara au Mishum Efted Mamono, Sharinan Isoura de Oraita. Est-ce que pour une perte d'argent, on va lui permettre un Isour de la Torah? Amar le in. Rav Chisda lui répond ici, c'est pas un problème ici. Mishum efsed amono, à cause de sa perte d'argent, gamar belibo lechol kazait. Il décide de manger un kazait, même s'il n'en a pas besoin, même s'il n'avait pas l'intention, même s'il n'avait pas envie de manger un kazait. Ici, il entend qu'il risque de perdre sa vache, ça va lui donner de l'appétit. Il va se dire, bon, si c'est comme ça, j'ai aucun problème, bien sûr, au contraire, les chvod yom tov et tout, je vais manger un kazait de viande grillée. Il se dépêche à faire la shrita, à griller un kazaït de viande et à en manger. Et donc ici, il se trouve que cette shrita a été faite pour Yom Tov. Pourquoi? Parce que, dit la Gemara, « Ve'i epshar le kazaït vassar belo shrita ». Il est impossible de faire la shrita sur un kazaït uniquement. La shrita se fera sur toute la vache pour permettre un kazaït de la vache. Obligatoirement, il devra faire la shrita de la vache entière. Et donc, il se trouve que cette shrita, elle a été faite pendant Yom Tov, pour Yom Tov même, puisqu'il a décidé... Il a décidé de manger ce kazaït grillé, et cette décision-là fait que la shrita a été faite pour Yom Tov. Donc, quand on a dit, s'il est possible de manger un kazaït de viande grillée, ça ne veut pas dire que s'il est possible, c'est suffisant même s'il n'en mange pas. Non. S'il est possible, donc il doit se décider d'en manger, et ça va se faire facilement parce qu'il n'a pas le choix, il risque de perdre toute sa vache. Et donc, il va se décider, et il va en manger un kazaït grillé pendant Yom Tov. Et donc, il se trouve que la shrita était faite pendant Yom Tov. Et avec ça, c'est permis même sans O'il. Donc, voilà une machloquette entre Rabba et Rav Chisda. Est-ce qu'on tient le Hoïl ou on ne tient pas le Hoïl? L'Agmara va continuer avec cette marloquette dans le DAF suivant. On va s'arrêter là pour le moment.